L'overdose, il arrive parfois qu'il y a des histoires assez étonnantes qui sont racontées dans les journaux et qui découlent de jugements qui ont été rendus. C'est le cas ce matin d'un article dans Le Soleil où on raconte l'histoire d'une femme qui est obligée de payer 26 000 $ à la conjointe du neveu. Vous allez voir que l'histoire, on va vous la résumer, là. Mais en gros, madame, la tante, là, qui paraît-il avait un litige concernant une affaire de succession, a écrit au copain de sa nièce, « Joyeuse fête, le cocu, on appelle ça le retour de la pendule, que les nouvelles croustillantes se répandent vite. » Évidemment, ça a créé des tensions dans le couple, on peut le deviner. Elle a demandé à sa tante de se rétracter, ce qu'elle n'a pas fait. Puis là, on se retrouve donc devant le tribunal. J'en parle ce matin pour essayer de comprendre comment on peut analyser une cause comme celle-là avec Maître Christian Leblanc, qui est avocat, justement, spécialiste sur la gestion des réputations, droit des médias et propriété intellectuelle. Maître Leblanc, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Donc, un simple texto où j'accuse quelqu'un d'être cocu, ça peut mal virer.
Ben oui, en fait, ce que cette affaire permet d'illustrer, c'est qu'il faut être prudent dans nos communications. La diffamation, la responsabilité civile pour nos paroles ne sont pas seulement engendrées quand on fait des déclarations dans des émissions à grande cote d'écoute, mais aussi dans toute communication que l'on envoie à une autre partie. Et ça, c'est un bon exemple de ce qui peut arriver quand on fait ce genre de communication.
Mais quels sont les paramètres dans un échange, je ne sais pas moi, de texto, de courriel, entre deux personnes, le ton peut monter, je peux être déplacé, je ne dis pas d'être haineux et menaçant, là, mais comment on fait les nuances d'une conversation animée et quelque chose qui peut t'amener devant le tribunal?
Bien, il faut faire la part des choses. Hein. Ici, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui a envoyé un texto à une deuxième personne, mais dénonçant un comportement d'une troisième personne. Et c'est cette troisième personne-là, donc la conjointe du neveu, de ce que je peux voir, là, je ne connais pas en détail cette cause-là, mais c'est celle-là, c'est cette personne-là, cette troisième personne qui s'est vue diffamée par le texto qui est envoyé à son conjoint. Alors, quand on rapporte des rumeurs, quand on ne vérifie pas ce que l'on dit, il peut y avoir des conséquences à ça. Ce que ça met en exergue, cette affaire-là aussi, c'est que c'est pas seulement lorsqu'on est journaliste qu'on doit vérifier ce que l'on avance, mais c'est aussi toute personne qui se permet de rapporter quelque chose sur une autre qui doit s'assurer de vérifier. Dans cette affaire, on peut lire, en tout cas de l'article du Soleil, qu'il n'y avait eu aucune vérification. Et ça aussi, il faut être prudent.
OK. Mais j'allais vous poser la question ultime. Est-ce que si j'accuse quelqu'un, je dis de quelqu'un qu'il est cocu et que la nièce, dans ce cas-là, me poursuit, est-ce que je dois faire la démonstration que je n'ai pas trompé le neveu ou le conjoint en question? Autrement dit, défaire l'argumentaire ou la prétention de la tante?
Bien, c'est le fardeau de la personne qui poursuit d'établir qu'il y a eu diffamation. En quelque sorte, souvent, oui, ça va venir à démontrer si, effectivement, ce qui a été avancé est bien vrai, mais il y a d'autres facteurs. Ce qui est important aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut prouver des dommages. Tout n'est pas susceptible de causer des dommages. Ici, on a vu que, selon ce que rapporte l'article, il y aurait eu beaucoup de tensions, certains dommages moraux créés à la conjointe par l'envoi de ce texto. Alors ça aussi, il faut l'avancer et il faut le prouver. Il suffit pas de dire « je pense que j'ai été diffamé », il faut démontrer qu'on a subi un dommage, mais effectivement, lorsqu'on s'adresse aux tribunaux et qu'on poursuit, qu'on est demandeur, il faut faire une certaine démonstration de ce qui est avancé. L'autre chose aussi, M. Arcand, quand on avance quelque chose, il faut qu'il y ait un certain intérêt public, même si on n'est pas journaliste. Ici, encore là, de l'article, on comprend que ce qui a été avancé l'aurait été purement pour des motifs,
mesquins,
autres que... Oui, ben c'est ce que rapporte l'article.
Est-ce qu'on peut extrapoler aux réseaux sociaux une décision comme celle-là? Je comprends que chaque cause est unique, là, mais tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, des faussetés qui sont véhiculées sur des réseaux sociaux, dans des groupes de discussion, est-ce que ça va jusque-là?
Complètement, M. Arcand. Et en fait, je vous dirais que si on est sur les médias sociaux, habituellement, l'audience que l'on va atteindre est encore plus large que dans un échange de texto. Et on est dans une dimension où la personne qui se croit diffamée peut démontrer que plusieurs personnes ont eu connaissance de ce qui est allégué comme étant diffamatoire, et c'est susceptible de générer des dommages également. Alors, vous avez tout à fait raison. Et il y a des causes qui ont été, des jugements qui ont été rendus sur la question. On ne peut pas écrire ce que l'on veut dans n'importe quel forum sans se soucier de sa responsabilité.
Ça termine l'entrevue parce que c'est clair. Merci beaucoup, Maître Leblanc.
Merci.
Merci, au revoir. Maître Christian Leblanc, qui est avocat chez Fasken et spécialiste des questions de réputation, droit des médias et propriété intellectuelle. Mais c'est pas banal. C'est sûr, là, il y a un côté, tu dis, je te traite de cocu, puis l'autre aime pas ça, puis la nièce poursuit à tante, puis la tante, après la mise en demeure, veut pas s'excuser, puis là, j'ai des dommages, va devant le juge, puis le juge dit d'accuser quelqu'un d'adultère, c'est pas banal. Et il y avait pas de preuve de ça. Mais allons plus loin, puis regardons ce que les gens font sans trop s'en rendre compte. Puis dire, ben, c'est pas grave. J'ai entendu dire que, je pense que... Tu peux pas écrire n'importe quoi sur n'importe qui. Puis d'avoir... Puis il y en a combien par jour? Moi, je reçois des messages, mais des captures d'écran de propos haineux, là. Je regarde des collègues, femmes, journalistes, qui se font insulter à tour de bras par des termes d'une vulgarité. Tu pourrais pas tenir ça deux secondes dans une conversation en personne. Mais les avatars, l'anonymat permet de dire n'importe quoi. Puis t'as beau dire, ben c'est notre job, puis on a une carapace, je m'excuse de te faire insulter avec des remarques à caractère sexuel la plupart du temps. Sexiste, macho, tu veux dire, t'es pas obligé d'endurer ça dans la vie, mais ça peut avoir un effet. Et ça doit avoir un effet. C'est pas vrai là, que... Puis là, les tatas qui font ça, évidemment, ils se trouvent bien comiques, mais on sait pas trop c'est qui. Ils sont dans l'anonymat parce qu'ils sont peureux en plus. Une des caractéristiques de ce monde-là, c'est de se cacher. T'sais, je t'insulte, je te vomis dessus. T'essaies de me trouver. Il y en a d'autres qui le font en visage découvert. Mais il y en a beaucoup qui se cachent aussi. Donc, petit rappel que quand il y a un dommage de rattacher à des propos comme ça diffamatoires, ben, il pourrait y avoir un prix à payer aussi. 9h20 minutes.